tourner vers l'international. Alors on a évidemment dans une iconographie traditionnelle l'image d'un douanier gardien des traités, gardien des frontières. Mais enfin, les frontières, chacun le sait, ça n'est qu'une ligne imaginaire et surtout une ligne qui ne cesse de se dilater, notamment avec la fluidification des échanges, leur extension et puis la dématérialisation des échanges de données, mais également la facilitation par l'Internet des échanges de marchandises. Donc c'est la raison pour laquelle la douane a créé en son sein un service spécialisé pour analyser ce vecteur de fraude que constitue, du point de vue douanier, et exclusivement du point de vue douanier, l'utilisation d'Internet. Alors, quelques mots peut-être pour commencer, mais très rapide. Je ne vais pas faire un historique de ce qu'est l'administration des douanes, mais en le replaçant dans notre propos, très rapidement dire quelques mots de l'action de la douane. Puis on va voir comment a été prise en compte cette dimension nouvelle, qui est l'utilisation d'Internet pour le commerce de marchandises, et notamment le commerce illicite de marchandises frauduleuses, et ensuite comment nous y répondons, avec quels moyens et avec quels pouvoirs. Quelques mots sur la douane pour dire que s'il fallait, compte tenu du temps réduit qui m'est imparti pour en parler, définir la douane, je dirais que c'est la police des marchandises. C'est également aussi, bien entendu, la police de l'activité humaine, mais en premier lieu, ce qui compte pour la douane, c'est la marchandise. Et si l'on contrôle quelqu'un, c'est pour y découvrir la marchandise que cette personne va transporter. Si l'on démonte un camion ou si l'on fouille un navire, c'est pour y trouver la marchandise. On est en quelque sorte la vigie des échanges internationaux et on recherche toutes les marchandises. Les marchandises illicites, les marchandises de fraude, comme les produits stupéfiants, comme les contrefaçons, mais des marchandises qui sont tout à fait licites, mais qui, pour pouvoir circuler ou entrer sur le territoire national, sont assujetties à des formalités, un certificat sanitaire pour des produits alimentaires, une licence pour un produit électronique contingenté, par exemple. Donc, on va surveiller les marchandises. Et tout naturellement, le meilleur moyen pour les surveiller, c'est de mettre sur leur vecteur, sur leur flux d'acheminement, aux frontières. Aujourd'hui, de frontières, il y en a assez peu au sens douanier du terme. Ce sont des frontières avec les pays tiers. Et donc, on va être positionné dans les ports, les aéroports. Et puis, sur tous les flux d'acheminement. C'est la raison pour laquelle il y a autant de saisies qui sont réalisées par la douane sur les grands axes de circulation qu'il peut en être réalisé dans les ports ou les aéroports. Et puis, il y a les marchandises qui sont acheminées par voie de fret express ou par voie postale. Et s'ils sont acheminés par voie de fret ou par voie postale, c'est que ces marchandises-là ont été commandées préalablement par Internet. Et nous en venons à notre propos. Comment contrôler ces achats, ces commerces illégaux par Internet qui constituent des infractions au regard du Code des douanes? Alors, il y a une méthode traditionnelle qui consiste à se mettre au point d'arrivée des marchandises et donc dans les centres de fret postaux ou dans les centres de fret express, et essayer, dans les 12 millions de colis qui arrivent dans un des terminaux mensuellement dans un des terminaux de Roissy, essayer de trouver parmi ces 12 millions de colis ceux qui vont contenir des produits stupéfiants, des armes, des cigarettes, des contrefaçons, des marchandises protégées par la Convention de Washington, et essayer de les saisir. Ça, c'est une méthode. Et puis, il y a une seconde méthode qui consiste à essayer d'anticiper ce que fait généralement la douane, c'est-à-dire de surveiller les mouvements de marchandises et puis de ne pas se contenter de saisir un colis, mais essayer de remonter sur une filière d'acheminement. Et comme le disait à l'instant le président de séance, essayer de relever toutes les infractions connexes à l'infraction de douane, le délit de blanchiment, le délit de criminalité organisée et les délits de droit commun qui sont connexes. Et c'est la raison pour laquelle, après diverses expériences, on a définitivement consolidé un réseau de cyberdouaniers avec des analystes qui ont leurs correspondants dans les différentes directions des douanes régionales et qui sont en relation avec leurs collègues étrangers. Je terminerai ce premier propos, cette première partie de présentation générale, par quelques chiffres. Alors, je ne vais pas vous étourdir sur le nombre des chiffres, mais simplement pour vous donner une idée des saisies qui sont réalisées sur le fret express. Et ne nous méprenons pas, dans le fret express, ce sont toujours des saisies qui, à l'unité, sont de très faible importance. Évidemment, quand ce sont des cigarettes, c'est une cartouche qui est envoyée par fret express, c'est-à-dire 10 paquets de 20 grammes, 200 grammes. Donc, les chiffres que je vais vous donner traduisent d'autant plus l'activité que leur importance est la somme d'une, de saisies qui, à l'unité, sont infinitésimales. Ben, par exemple, pour 2010, ce sont 36 tonnes de cigarettes de contrefaçon qui ont été saisies à l'aéroport de Roissy par les agents des douanes. 36 tonnes arrivées par fret express. Ça représente à peu près 10% des saisies de cigarettes réalisées en France par la douane, qui en a saisi 350 tonnes l'an passé. Activité importante, hein, parce que 8 tonnes de cigarettes, c'est à peu près 2 millions d'euros de profit pour celui qui se livre à ce type de trafic. En matière de contrefaçon, c'est 1 million de contrefaçons saisies à l'aéroport de Roissy sur le fret express. J'insiste bien sur ce point-là. Et puis pour ce qui est des produits stupéfiants, c'est un peu plus de 2 tonnes de produits stupéfiants saisis, qui là aussi représentent une quantité considérable. 2 tonnes de produits stupéfiants saisis pour l'essentiel de la cocaïne. Je rappelle un ordre de grandeur, la cocaïne c'est à peu près entre 40 et 60 euros le gramme au coût de revente sur le marché du semi-gros. Donc ça donne une idée de ce que peut représenter cette fraude. Voilà. Alors, comment agissons-nous dans ce domaine ? Eh bien, de plusieurs manières. Tout d'abord, je vous l'ai dit, il y a un service qui s'appelle Cyberdouane et qui se compose d'analystes et qui vont donc aller sur Internet pour participer à des dialogues sur des sites, pour essayer d'identifier des personnes qui vont soit se porter acquéreurs, soit se présenter comme étant des vendeurs de produits de contrefaçon. Et pour le faire, on a différents instruments juridiques, et c'est ça qui est important, parce qu'il y a une assemblée de juristes tout de même dans cette salle. Il y a différents instruments juridiques qui sont mis à notre disposition. Tout d'abord, dans le travail au quotidien, il y a plusieurs textes qui permettent non seulement d'être les observateurs de transactions, d'échanges entre acheteurs et vendeurs, mais également qui permettent de prendre une part active. Il y a la possibilité, dans deux domaines, parce qu'on estime que ce sont deux domaines sensibles, en tout cas ça a été l'appréciation portée par le législateur, et il y a la possibilité de provoquer ce que l'on appelle des coups d'achat. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est familier de cette notion, comprendra aisément ce que cela signifie. Cela signifie pour une force répressive la possibilité de se porter acquéreur de produits stupéfiants ou de contrefaçon, puisque les coups d'achat ne peuvent être mis en œuvre que dans ce domaine, en tout cas ainsi le prévoit la loi aujourd'hui, de se porter acquéreur de ces marchandises, non pas de provoquer un délit qui ne préexisterait pas, mais de se porter acquéreur de ce type de marchandises, dans le but à la fois d'identifier les marchandises en question et de bien pouvoir s'assurer qu'il s'agit de produits stupéfiants ou de contrefaçon, mais également d'identifier les vendeurs et surtout, parce que c'est le plus important, les circuits financiers qui vont devoir être empruntés pour s'acquitter du paiement de la somme qui est due du fait de l'acquisition de ces produits interdits. Parce que dans le domaine, mais ce sera ma conclusion, de la lutte contre ce type de trafic, l'appréhension d'une marchandise est très importante, l'identification des auteurs aussi, mais les circuits financiers sont essentiels. Il y a un deuxième pouvoir juridique qui est assez intéressant, dont je voudrais vous parler, qui nous éloigne peut-être un petit peu de l'activité douanière traditionnelle, mais c'est suffisamment novateur et intéressant pour que je le cite ici. C'est un pouvoir qui a été conféré à la douane par la loi du 12 2010, qui est une loi qui a autorisé l'ouverture des jeux en ligne, des jeux d'argent en ligne, et qui a légalisé les jeux d'argent en ligne sous certaines conditions. Et on a prévu la possibilité pour l'administration des douanes de participer à des sessions de jeux sous couvert d'anonymat, c'est-à-dire qu'on n'est plus non plus dans la procédure dite du coup d'achat, qui est une procédure assez rudimentaire, où quelqu'un qui se fait passer pour un acheteur sollicite d'un vendeur qui lui vend des produits stupéfiants ou des contrefaçons. Là, on n'est plus dans une procédure dite d'infiltration, c'est-à-dire que l'on va intervenir dans une session de jeu, réaliser des mises, obtenir des gains, et donc, toujours avec la même préoccupation, d'identifier les jeux interdits, d'identifier les activités éventuellement de blanchiment d'argent sale, d'escroquerie et tous les délits qui se rattachent à l'organisation des jeux telle qu'elle est prévue par la loi. Et puis enfin, et on s'éloigne un peu du domaine virtuel, il y a les pouvoirs traditionnels de la douane et notamment le droit de demander communication à toute personne des documents ou de renseignements qui intéressent directement ou indirectement le service des douanes et qui se rapporte à des opérations régulières et irrégulières. C'est un article du Code des douanes, l'article 65 du Code des douanes, que l'on appelle en droit le droit de communication et qui permet auprès des fournisseurs d'accès, auprès des hébergeurs, auprès des intermédiaires, auprès des sociétés qui attribuent des noms de domaine, eh bien de demander communication d'informations ou d'organismes financiers, de demander communication de renseignements qui permettent là aussi d'identifier les personnes. Alors tout ceci ne peut fonctionner, ça sera mon troisième point, après avoir vu les pouvoirs, tout ceci ne peut fonctionner qu'à condition de disposer d'une méthodologie de travail qui permette d'optimiser ces pouvoirs et ce savoir-faire. Alors quelle est la méthodologie de travail ? Trois règles. La première, c'est la collecte de renseignements au sens large du terme. Parce que quand on parle collecte de renseignements, on imagine, et ça arrive, mais de manière extrêmement exceptionnelle, ça arrive qu'on vous dise, voilà, telle personne sur tel site vend tel type de marchandises en utilisant telle terminologie qui permette de masquer la véritable nature des produits qui sont vendus. Alors ça, c'est très exceptionnel. Non, le renseignement, le véritable renseignement, ce sont ces sources de renseignements qui, en apparence, ne sont pas déterminants, mais qui, croisés entre eux, permettent de mieux cibler l'action que l'on a pour faire des contrôles. Ce sont les renseignements qui émanent, pour les contrefaçons, par exemple, des titulaires de droits. Quelqu'un qui est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est le mieux placé, à la fois pour donner des renseignements sur les lieux qui peuvent être des lieux possibles de fabrication et d'expédition de marchandises, et des informations pour pouvoir identifier les marchandises. Ce sont tous les opérateurs de l'Internet. La douane a conclu des protocoles d'accord avec Price Minister, avec eBay, avec Google, avec de nombreux opérateurs qui signalent les anomalies. Alors beaucoup étaient réticents au départ, se disant il ne faudrait pas quand même que l'on puisse considérer que nous sommes les complices ou des vecteurs de fraude. Et puis finalement, ils ont bien compris à la longue que le fait de pouvoir coopérer dans ces conditions avec une administration telle que la douane, eh bien c'était aussi une garantie pour les clients de savoir qu'il y avait une surveillance qui permettait de lutter contre l'offre de produits illégaux. Et puis ce sont bien entendu, et je me tourne vers ma voisine de gauche, les partenariats et l'aide que l'on peut obtenir de services très spécialisés et qui interviennent dans ce domaine, comme votre office, madame, ou comme d'autres services répressifs peuvent fournir des renseignements. Et puis c'est toute la collaboration avec le réseau international d'assistance administrative, puisqu'il y a une vertu dans les accords douaniers. Monsieur le Président, vous disiez que c'est une administration internationale, et c'est vrai, c'est une administration qui est liée par des conventions d'assistance administrative à de nombreux partenaires internationaux, et notamment avec des administrations douanières, avec lesquelles on peut échanger sans le formalisme qui s'impose lorsque l'on est dans l'enquête judiciaire ou dans des enquêtes qui requièrent de respecter un certain protocole pour pouvoir obtenir des renseignements à l'étranger. Là, ce sont des renseignements échangés en direct, des soupçons ou des renseignements directement opérationnels. Ça, c'est la première règle, collecter le maximum de renseignements. La deuxième, eh bien, c'est de pouvoir identifier, je l'ai dit dans mon propos introductif, mais j'insiste bien là-dessus, non seulement les vendeurs, mais les circuits financiers, puisque ce que l'on aperçoit aujourd'hui, c'est une délocalisation et une atomisation des différents intervenants. Vous avez, je vais prendre un exemple simple et concret, puisqu'il y a une condamnation qui est tombée, un an d'emprisonnement dont 6 mois ferme pour quelqu'un qui revendait des contrefaçons de chaussures. Ce n'est pas l'infraction la plus grave, même si elle est grave et si elle est répréhensible, parmi celles qu'on a pu constater au cours des derniers mois. Enfin bon, il a été condamné pour vente de contrefaçons de chaussures de sport avec un chiffre d'affaires relativement modéré de 70 000 euros. Je cite cet exemple parce qu'il est illustrant à plus d'un titre, et notamment, il montre l'appréhension qu'ont les magistrats du caractère de gravité de ces infractions. On n'aurait pas vu ce type de condamnation il y a quelques années. Cette personne vendait, à partir d'un site situé à l'étranger, des chaussures qui étaient fabriquées en Chine. Le site était situé en Suisse et les paiements se faisaient dans un troisième pays tiers, à Dubaï. Alors, il est très difficile dans ces conditions, si l'on n'est pas sur une observation pendant des séquences très longues, de pouvoir déterminer les relations qui unissent finalement l'endroit où se trouve la tirelire, l'endroit où on fabrique les marchandises, la façon dont c'est acheminé et l'endroit où c'est vendu. Et puis enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est la condamnation qui est très importante pour l'action que l'on mène et donc la réponse pénale. La réponse pénale est essentielle parce que très longtemps, je ne vous le cache pas, dans ce domaine, on a eu l'impression d'une forme d'impunité accrue par l'espèce d'ignorance que pouvaient avoir les utilisateurs du vecteur Internet, considérant qu'il y avait une forme d'anonymat, une impossibilité à remonter, alors que, ça vous a bien été expliqué, s'il y a un endroit où la trace ne s'efface pas, c'est bien sur l'Internet. À cet anonymat s'ajoutait la forme d'atomisation de la fraude. Alors souvent, les magistrats, moi pour y être allé quelques fois et les avoir rencontrés, disaient « mais on va bien engager des actions dans ce domaine ». Vous savez, ça va être très long et puis les gens en auront disparu et puis les condamnations ne seront jamais exécutées ou on n'identifiera pas les personnes. Il y avait une forme de réticence à s'engager qui aujourd'hui, me semble-t-il, tend à être du passé, à s'inscrire au titre des notations presque historiques puisque les magistrats sont très engagés dans ce type de procédure et j'en veux pour preuve les condamnations qui sont prononcées. Mais surtout parce qu'on a pu démontrer, je conclurai avec cela, c'est que la fraude sur Internet, pour l'essentiel, en tout cas celle que l'on observe, n'est pas une fraude individuelle. Elle est individuelle pour celui qui va acheter le produit stupéfiant, pour celui qui va acheter la contrefaçon, pour celui qui va acheter les objets protégés au titre de la Convention de Washington, pour celui qui va acheter des armes. Cela, elle est individuelle. Mais pour l'organisateur, elle relève toujours de la criminalité organisée, parce qu'il faut avoir une structure, des moyens financiers importants, des vecteurs d'acheminement. Et puis, j'allais dire, même pour le destinataire, et je peux en parler ici puisqu'il y a une première condamnation qui a été rendue et d'autres affaires qui sont actuellement en cours d'instruction. Puis même pour le destinataire, parfois, lorsqu'il est individuel, ça n'est qu'une apparence. Et j'en veux pour preuve du trafic de cigarettes. Je parle de ce trafic parce que ça paraît être le plus anodin. Je pourrais citer le cas des stupéfiants, des produits qui paraissent a priori beaucoup plus dangereux, de médicaments, par exemple. Mais je vais prendre celui de cigarettes, où des paquets de cigarettes étaient acheminés en France sans déclaration, évidemment, sans taxation. Je vous l'ai dit, 8 tonnes de cigarettes, pardon, c'est 2 millions d'euros de bénéfices pour un trafiquant, où ces cigarettes étaient acheminées à destination d'une multitude de personnes. Ça n'était que des noms d'emprunt. Et 4 ou 5 d'entre elles, finalement, faisaient le tour des bureaux de poste ou des lieux de destination présumés de ces colis pour les rassembler et importaient environ entre 400 kilos et 800 kilos de cigarettes par mois. Pour ces quelques personnes, c'était une organisation qui était implantée en différents endroits du territoire national et on peut estimer à peu près à 4 tonnes les importations de cigarettes réalisées par cette organisation mensuellement. Ce qui fait que ça permettait à la fois de réaliser des bénéfices considérables, de blanchir de l'argent sale, d'employer des gens qui, pour certains d'entre eux, étaient dans des situations irrégulières et donc exploités dans des conditions qui ne sont plus du tout conformes à la conception que l'on se fait dans notre pays de la dignité humaine, et puis surtout qui servaient à alimenter, pour une partie de ces fonds, une organisation que l'on qualifie de terroriste, mais qui n'est pas active sur le territoire national. Les fonds ont été ensuite réexpédiés sous une autre forme à l'étranger, mais ce n'est pas une organisation qui n'est absolument pas active, qui fait du prosélytisme et qui n'est absolument pas active sur le territoire national. Alors je voulais citer cet exemple pour dire que ce sont ces types d'infractions qui font qu'il y a une réponse pénale de plus en plus importante. Ce que l'on peut encore, et j'en finirai là, regretter, c'est qu'on n'a peut-être pas tous les instruments juridiques qui vont jusqu'au bout du raisonnement. Je pourrais en citer beaucoup, hein, mais on n'est pas ici pour faire de la déploration, mais simplement un exemple. Moi, qui m'a frappé, vous citiez le cas des États-Unis. Je ne dis pas qu'ils sont visionnaires dans ce domaine, mais j'ai vu quelque chose qui était intéressant. C'est la possibilité en droit, alors on l'a proposé à nos collègues de la chancellerie, la possibilité en droit chez eux de pouvoir saisir des noms de domaine. Ce qui est extrêmement efficace, ce qui n'existe pas en droit français, alors qu'on peut saisir des biens immatériels, mais pas des noms de domaine. Ce qui est extrêmement efficace, parce que quand vous avez un opérateur, et ça a été le cas pour deux, je ne suis pas ni un adepte ni un grand connaisseur des sites de jeux de poker, mais pour un grand opérateur illégal, mais connu aux États-Unis, ça a été le cas. Le site a été saisi, et quand le joueur revient sur le site, bien, il y a une manchette indiquant que le site a été saisi par les services du FBI. C'est quand même extrêmement intéressant parce que, à la fois, ça décourage celui qui utilise ce type de site parce qu'il se dit qu'à tout moment, ça peut être saisi. Lui-même se sent observé ensuite puisque le site a été saisi. Et puis, très provisoirement, ça met fin à un trafic. Pardon si j'étais un peu long.